Alors, on a commencé le dernier cours, chapitre 4 de Higueret Tachouva du Tania. Donc, on va faire un petit résumé, parce que le dernier cours remonte quand même à 2 semaines, on va faire un petit résumé rapide. Jusqu'au chapitre 3, on a expliqué l'aspect technique de la Tachouva. Donc, on a expliqué que parfois le nombre de jeûnes qu'il faut faire, et c'est quoi la Tachouva, et le regret, etc. Bon, ça, on a développé longuement l'aspect technique de la Tachouva. À partir du chapitre 4, on est rentré dans un nouvel aspect, un nouveau palier du Tania. On ne se pose pas la question comment on fait Teshuva, mais la question, je suis à la page 202 Chazak, ouais. Mais la question qu'on se pose plutôt, c'est pourquoi, comment fonctionne la Teshuva, comment ça marche. Et pour illustrer ça, on a posé plusieurs questions. D'abord, la première question qu'on a posée, c'est que parfois dans la Torah, notamment dans le Zohar, il est écrit qu'il y a certaines fautes pour lesquelles la Teshuva ne marche pas. Comme ça, c'est écrit. C'est écrit, par exemple, que celui qui, on avait parlé de la faute de la Brit Mila, celui qui fait sortir la semence en vin, dans un endroit, le Zohar dit que pour ça, il n'y a pas de Teshuva possible. Pourtant, d'un autre côté, on sait bien qu'il est écrit qu'il n'y a rien qui tient devant la Teshuva. Tout le monde peut faire Teshuva. Comment ça marche ? Alors, sur ça, on a expliqué qu'en fait, le Zohar, dans un autre endroit, explique qu'il y a deux teshuvas. Il y a ce qu'on appelle la teshuva d'en haut et la teshuva d'en bas. Il y a une teshuva de bas niveau et une teshuva de haut niveau. Par rapport à la teshuva de bas niveau, il y a des choses qui ne sont pas pardonnables. Mais par rapport à la teshuva de haut niveau, tout est pardonnable. Alors, évidemment, quand on entend ça, on se dit, mais c'est quoi une teshuva de bas niveau et c'est quoi une teshuva de haut niveau? On n'a pas encore répondu à cette question.
Si, c'est ce que, quand on sait quelque chose, qui est interdit, ça c'est au niveau.
Et quand, Oui, d'accord, je comprends, mais c'est-à-dire qu'apparemment, il y a plusieurs catégories de teshuva, on n'a pas expliqué quelle est une teshuva, qu'est-ce qu'une teshuva de bas niveau, qu'est-ce qu'une teshuva de haut niveau. En fait, on avait expliqué que dans le nom d'Hachem, Yud, Ke, Vav, Ke, combien de He il y a?
Deux
He. Il y a le He d'en haut et le He d'en bas. Le He d'en haut, c'est le premier He, Yud, Ke, donc le premier He, et le deuxième He, c'est le Vav, Ke. Et le Zohar explique que le « he », le premier « he » correspond à la teshuva d'en haut, et le deuxième « he » correspond à la teshuva d'en bas. Bon, c'est, ça ne répond pas toujours. C'est quoi, concrètement, dans la vie du jour, c'est quoi? Première question qu'on a posée. Donc, en fait, on veut comprendre comment fonctionne la teshuva. Comment ça marche? Nous, on est des gens carrés. J'ai cassé, dis-moi comment je répare. Tu dis, non, tu comprends, là, tu répares, mais ça dépend. Il y a une réparation de haut niveau, une réparation de bas niveau. Je n'ai pas compris, dis-moi les choses clairement. Comment je répare? Normalement, on ne peut pas réparer. Je peux pas réparer. Tu as pris un vase, tu l'as cassé en 1000 morceaux. Tu peux le réparer? C'est impossible. Alors comment fonctionne la teshuva? Comment je peux faire teshuva? Comment je peux réparer ce que j'ai fait? Ça, c'est une première question. Deuxième question qu'on a posée, c'est, a priori, et ça, c'est une question fondamentale, à laquelle on va répondre seulement dans le chapitre 6. A priori, dans la Torah, dans le système de la Torah, de la punition et des récompenses, il y a plusieurs incohérences. Par exemple, la Torah te dit que si une personne se comporte comme il faut, alors il y aura la pluie dans son champ, et s'il ne se comporte pas comme il faut, il n'y aura pas la pluie dans son champ. C'est ce qui est écrit, ce qu'on est dans le schéma. La Torah te dit que pour certaines fautes, on meurt, Dieu préserve, la personne meurt avant 60 ans. Est-ce que sur le terrain on voit ça? Non. Sur le terrain on ne voit pas ça. Sur le terrain on voit des gens qui sont pas religieux, après on n'est pas dans le cœur de chacun, mais on voit clairement des gens qui ne respectent pas la Torah et les mitzvot. C'est entre eux et Dieu, mais en tout cas, ils ne respectent pas du tout la Torah et les mitzvot, et alors qu'ils sont peut-être dans des familles religieuses, on pourra toujours trouver des circonstances dénuantes. Mais on voit des gens qui vivent bien alors qu'ils se comportent mal, et des gens qui vivent mal alors qu'ils se comportent bien. Donc, c'est incohérent. Ça ne marche pas. On voit aussi des gens, alors nous, on ne le sait pas, c'est la Torah qui nous dit, moi, je ne me mêle pas de la vie des gens. Mais la Mourazakane te dit qu'on sait très bien qu'il y a des gens qui font des avérotes pour lesquelles ils devraient mourir normalement avant 60 ans, et pourtant, ils vivent jusqu'à 120 ans. Donc, comment ça marche? Donc en fait, c'est le système dans sa globalité qu'on a du mal à comprendre. On a du mal à comprendre d'abord comment tu répares une faute, et on a du mal aussi à comprendre comment ça fonctionne, pourquoi on voit pas clairement les punitions et les récompenses. Comprenez, quand par exemple vous dites à un enfant, vous lui dites voilà, tu fais ça, t'auras ça. La punition a été annoncée, la punition est claire, et bah, s'il se comporte bien, il aura une récompense, et s'il se comporte mal, il a une punition, mais la punition est claire. C'est pas, on dit, écoute, tu comprends, il y a bas niveau, haut niveau, on va expliquer, on va comprendre. C'est très loin, comment vous appelez ça, hein? Traloed. Ah, traloed, d'accord. Bon, voilà, vous avez compris. C'est compliqué, c'est compliqué. Alors, c'est un peu l'impression qu'on a quand on parle de la Torah des Mitzvot. C'est compliqué. Pourquoi tu vois des complications? Tu me dis, tu comprends, tu auras, mais tu auras pas, mais fais tchouva, mais faire tchouva. Comment ça marche? C'est quoi cette histoire? Donc, c'est des questions très puissantes. Et quand on a une bonne question, on a intérêt à avoir
une bonne réponse,
parce que la question est forte. C'est des sujets qu'on touche pas en général.
Mais il y a beaucoup de questions comme ça dans la Torah
beaucoup.
Où on se pose vraiment.
Si vous voulez des questions, il peut.
Ah oui. Alors, amendement, monsieur Charles Benita. Charles Benita, le 29 Shvat, 4 février, a rajouté une troisième question. Ouais. Non mais sérieusement, non, c'est une bonne question. Ça veut dire, en fait, ce qui nous dérange ici, c'est qu'on a du mal à comprendre comment ça fonctionne. Quand je fais une avéra, comment je fais teshuva? Pourquoi des fois ça marche, des fois ça marche pas? Et pourquoi dans le système, dans la vie de tous les jours, des fois on voit clairement le système, la Torah qui fonctionne, des fois ça marche pas. Ça marche pas, c'est-à-dire que c'est incohérent. Ça marche pas, c'est pas logique. Alors, Admor HaZaken a dit que pour répondre à cette question, c'est sur ça qu'on s'est arrêté il y a deux semaines, pour répondre à cette question, il faut revenir à la création du monde. C'est-à-dire, en fait, il faut ouvrir le capot. C'est-à-dire que là, on a compris qu'on n'a rien compris. Donc, pour répondre à cette question, il faut revenir à la création du monde. Et comprendre comment, dès la création du monde, la création d'un juif est différente de toutes les autres créatures. Une fois qu'on aura compris ça, on aura compris pourquoi et comment on fait teshuva. Parce que, pour comprendre comment tu répares, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que tu répares. Ça, c'est le chidouche. C'est que les gens, ils s'arrêtent, ils disent, comment on répare? Ils disent, attends, tu répares quoi? Quoi, comment tu répares? D'abord, avant de dire comment tu répares, c'est qu'est-ce que tu répares? Tu répares quoi? Où est le problème? Où est le vrai problème? Toi, tu crois, j'ai fait une faute. Non. C'est pas ça le problème. Le problème est beaucoup plus important. Le problème est qu'est-ce que tu répares? Alors, justement, on était à la page 202.
Mais quand vous dites à l'époque de Adam,
Monsieur Benita, je fais que résumer le.
Non, mais d'accord. non, ce qu'il dit là, ce grand rabbin là.
Bon, on va s'étaler un peu plus aujourd'hui parce qu'il y a plusieurs qui m'ont envoyé un mot d'excuse aujourd'hui. Hein.
Ah bon.
Mais c'est un, il est grippé, l'autre il est mal en point.
Ah, mais etc. C'est la période. Hein,
c'est le froid. Anniversaire.
Il a dit que
c'est la première fois là, tout à l'heure ma femme elle a appelé le pédiatre pour amener le petit. La première fois ce qui est arrivé, elle a dit aujourd'hui je suis saturé. Jamais
ah, ça m'étonne pas.
Ma femme m'a dit j'ai jamais eu ça, jamais ça m'est jamais arrivé que j'appelle le docteur il est saturé. Mmh. Toujours dit venez je prendrai la vin. Elle était saturée, elle était du monde partout.
Pas, ouais, c'est vrai.
C'est la période que vous dites.
Il y a un virus. Bon enfin chez monsieur.
Une fois il y a un rave.
Grand rave.
Attendez, une fois il y a un rave il est parti voir le docteur. Alors, il est parti voir le docteur et moi, les élèves, ils l'ont accompagné. C'est grand rave. C'est une blague. Alors, quand le docteur ausculte le rave, etc., et lorsque le rave sort, les élèves disent alors, rave, qu'est-ce qu'a dit le docteur? Il a dit Averot, c'est Averot. Il dit quoi, Averot? Il a dit Averot. Quel rapport à Averot? Alors, ils sont partis voir le docteur, on dit vous avez dit au rave Averot? Il dit non, je le dis Avirus.
Quand il dit Avirus.
Lui, il a dit Avirus, en Ashkenaz. Il l'a entendu Averot. Averos. Voilà. Bon, alors, monsieur Benita, votre question.
Oui, simplement, ce monsieur-là qui vient de dire que.
L'Admor HaZaken veut dire.
Pour comprendre.
Oui. Vous parlez de l'Admor HaZaken?
Oui.
Oui,
ça.
D'accord.
D'accord.
Ça.
Donc, pour comprendre, la Teshuvah, il faut remonter à l'origine, c'est-à-dire à la création du monde.
Exactement.
Et vous avez dit que, seuls les Juifs sont habilité à avoir cette espèce de teshuva.
Non, j'ai rien dit encore. J'ai rien expliqué.
Vous avez parlé comme ça.
J'ai pas dit ça encore. J'ai juste dit que pour répondre à cette question, il faut revenir à la source.
D'accord.
Votre imagination, vous avez déjà tout créé à la source.
Non. Vous avez dit que.
Alors je retire ce que j'ai dit.
C'est pas la question.
Bon, vous répétez la question.
C'est ça, vous avez dit que seuls les juifs sont habilités à recevoir la teshuvah.
J'ai pas dit ça encore.
Il faut ouvrir le capot pour voir ce qu'il y a
dans l'ouvrage. Je dis, on ouvre le capot pour l'instant, j'ai rien fait encore.
Après le capot.
Là, le garagiste, il ouvre le capot, monsieur Minetek, on va dire, attendez, c'est quoi ça, c'est quoi ça? Il dit, attends, deux secondes, j'ai juste ouvert le capot. J'ai rien dit encore.
Il est conçu.
Bon. Alors, en fait, la clé de la réponse se trouve dans un mot. Un mot de la paracha Azinu, mais un mot pour lequel il faut plusieurs chapitres pour comprendre. Dans la paracha Azinu, il est écrit « Kichelek Hashem Amo ». que le peuple juif est chélek, chélek.
Une partie.
Est une partie de Dieu. Partie de Dieu. Ça veut dire quoi qu'on est une partie de Dieu? Tout est là en vérité. Toute l'explication qu'on va avoir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 12 est cachée dans le mot chélek. Partie de Dieu. Ça veut dire quoi que je suis une partie de Dieu? Partie. C'est compliqué comme mot partie. Quand vous avez par exemple un artisan qui va créer un produit. Imaginez un artisan par exemple qui va faire un joli vase. Le vase n'est pas une partie de l'artisan. C'est un produit. C'est pas une partie.
Et un enfant est une partie d'un...
Et même un enfant, très bonne question, même un enfant. Un enfant, si tu veux, il est issu d'une partie de la personne, mais après ça devient un produit distinct.
Ouais, il est pas rattaché, c'est sûr.
Ah oui, il est pas rattaché. C'est-à-dire qu'il démarre rattaché. Effectivement, tu as raison que l'enfant vient d'une partie de ses parents, de son père et de sa mère. D'accord? De son père puis de sa mère, qui le développe. Mais après, l'enfant est détaché de ses parents.
Oui, à la naissance.
Que nous, on est constamment attaché à Kadosh
Baruch Hu. Et voilà, exactement. C'est-à-dire que nous, apparemment, on est conçus différemment. Nous, apparemment, on est dès le départ, on est.
Ça veut dire que nous, on est tout le temps en gestation.
Et donc, comment ça marche? On va expliquer. OK? Alors. Il a expliqué le jeu suivant, l'Admor HaZaken, il a dit qu'évidemment, les images qu'on retrouve dans la Torah sont évidemment, Chas v'Shalom, de dire qu'on est un morceau d'Hachem, parce qu'on ne peut pas parler, on ne peut pas dire des choses comme ça. Seulement, la Torah nous donne des images. Et quand un homme, comme un être humain, il a une compréhension limitée, donc on lui donne des images qu'il comprend. Et on avait ouvert une petite parenthèse, on s'est arrêté dessus, comme par exemple lorsqu'on dit que Dieu parle, Vaidaber Hachem, parce que Dieu il parle, Dieu parle-t-il? Dieu ne parle pas, évidemment. Dieu. Seulement, c'est quoi parler? Quand on dit que Dieu parle, c'est-à-dire quoi parler? De la même façon que quand M. Benita, il parle, d'accord? Et quand moi, je parle, comment ça fonctionne? C'est quoi la parole?
J'ai mis une idée aussi.
C'est exactement, on partage une idée. Donc, je communique quelque chose, je communique une question, je communique une réponse, je communique une idée. Il y a une communication. De la même façon, quand on dit que Dieu parle, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que Dieu parle. Ça veut pas dire qu'il y a une bouche, il communique. De la même façon, lorsqu'on dit que je suis une partie de Dieu, faut pas forcément comprendre au sens littéral que Dieu est matériel. C'est pas ce qu'on veut dire. Ce qu'on veut dire, c'est que de la même façon que tu comprends que lorsque tu as une partie de toi, bah tu comprends que c'est une partie de toi, que voilà, que ma main, mon ongle n'est pas moins Mendy que ma tête. On est d'accord? Alors, ma tête est peut-être un organe qui est plus vital, plus important, mais même l'ongle de mon pied fait partie de moi. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'est pas moins que moi. Ça veut dire que c'est pas, on va dire, ça c'est Mendy et ça c'est pas Mendy. Tout est Mendy. C'est moi. Après, les organes vitaux, les organes qui sont pas vitaux, mais tout est moi. Donc, de la même façon, lorsqu'on dit qu'un juif est une partie intégrale de la Kadosh Baruch Hu, bah, ça veut dire qu'en vérité, on est une partie de l'essence divine. Alors, comment ça fonctionne? Comment ça marche? On va expliquer tout ça, Bezrat Hashem. Ouvi Uraïnian. Donc, on est à la page 203. Ouvi Uraïnian, l'explication du sujet. Donc c'est pas simple, ce qu'on va expliquer aujourd'hui. Et Bezrat Hashem, vous allez voir, c'est très intéressant.
Alors comment il dit qu'on est, on est une partie de Hashem, et dans le même temps il me dit, il y a la Neshama d'en bas, la Neshama d'en haut, donc il y a deux parties.
C'est ça.
Attends, ça fait partie.
Laissez le temps au texte de devenir.
Wait.
Please wait.
Wait and see.
Là, t'es arrivé à trois parties. La partie d'en haut.
Ah, j'ai décollé. Ah, mes enfants, ils ont reconnu. Please wait. Et on l'avait toujours en train de courir, donc on a dit wait. Attends.
Calme.
Ouvi Uraïnian, en bas de la page 203. L'explication du sujet. OK? Donc en fait, qu'est-ce qu'on va expliquer aujourd'hui? C'est le thème d'aujourd'hui. Ce qu'on veut expliquer aujourd'hui, c'est comment, en moi, se trouve le nom d'Hachem. Et c'est très important de comprendre ça, parce que rappelez-vous, c'est quoi la Teshuvah? La Teshuvah, c'est Tashuv He, c'est le retour du He, le He d'en haut, le He d'en bas. Donc, puisqu'on parle d'un retour d'un He, Yud, Ke, Vav, Ke, le retour d'un He, il faut comprendre en quoi j'ai le nom d'Hachem en moi. Et qu'est-ce qui se passe lorsque je fais une faute et comment je répare ça? Donc là, si vous voulez, on va rentrer dans les coulisses de la faute. Dans les coulisses de ma création et les coulisses de ma faute. Alors là, on va développer, point par point, tranquillement. On va répéter une fois, deux fois, trois fois, on prend le temps, parce qu'on fait là, on va rentrer dans le Zohar. Vu au Reinan, explication du sujet. On tourne la page. Kano d'Ami Mamar Eliyahu. Il est connu le dicton d'Eliyahu Hanavi. Vous savez que Eliyahu Hanavi, il a beaucoup parlé. Eliyahu Hanavi, d'abord, on le retrouve dans la Bible. D'accord, Eliyahu Hanavi, il y a des histoires avec Eliyahu Hanavi, avec Elisha, etc. Et il y a, ou un avis, il y a aussi une section entière dans le Zohar qui lui est dédiée. Alors on va lire ensemble une phrase en araméen d'Eliyahu Hanavi. Je ne sais pas si Eliyahu Hanavi l'a parlé en araméen, mais en tout cas la phrase qui est citée au nom d'Eliyahu Hanavi. Kanoda, alors je vous préviens, vous allez rien comprendre à cette phrase. Mais on va l'expliquer. Kanoda mimamar Eliyahu. Donc voilà un texte du Patar Eliyahu. Alors Patar Eliyahu, c'est pas le livre. Hein. Parce que Patar Eliyahu, en fait, si vous voulez, c'est le dans le Zohar, il y a plusieurs endroits où c'est écrit Patar Eliyahu ve'amar. Eliyahu a ouvert et a dit. C'est-à-dire il a commencé, il a dit. Et donc de là ils ont fait le livre Patar Eliyahu. En fait, Patar Eliyahu, c'est une introduction dans le Zohar. Dans plusieurs endroits dans le Zohar, lorsqu'on va venir un dicton d'Eliyahu Hanavi, on dit Patar Eliyahu. Eliyahu a commencé, Ve'amar, et il a dit. Bon, alors voilà ce que dit Eliyahu. Qu'est-ce que dit Eliyahu? Il dit Ant ou toi Dieu, tu es celui d'Apikat Asartikunim, qui a fait émaner 10 tikunim, 10 vêtements, 10 ornements. Vekarin Anlehon, et nous les appelons,